Auravive, plus près de vous.
Vous écoutez Radio Auravive, la radio plus près de vous. Et c'est le moment de retrouver la nouvelle émission sur Radio Auravive. L'émission s'appelle Israël, un lieu, une histoire, présentée par Robert Guy Hakoun. Bonjour Robert.
Bonjour Serge.
Comment ça va ?
Bien, bien, et toi ?
Très, très, très bien et heureux de te retrouver sur les ondes de Radio Auravive et bienvenue dans la famille Auravive. Et aujourd'hui, Robert, avec toi, on va parler bien sûr d'un lieu, d'une histoire, mais également d'un homme qui a marqué son temps dans l'histoire d'Israël, c'est Sœur Montefiori. Qui était Sœur Montefiori ?
Alors, Moshe Montefiori est un grand philanthrope juif du 19e siècle, qui sera d'ailleurs anobli par la reine Victoria. Et en fait, ce sœur, Moshe Montefiori, va décider, à 40 ans, une fois fortune faite, de consacrer le reste de sa vie à aider ses frères juifs à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déjà se rendre à Damas, par exemple, pour résoudre le problème de ce qu'on va appeler le complot de Damas, où des juifs sont accusés d'utiliser le sang d'enfants non juifs pour faire des matzot. On connaît bien ce genre d'accusation. Il va aller à Moscou rencontrer le tsar pour améliorer la vie des juifs vivant sous la férule du pouvoir central. Il va aller en Italie dans l'affaire Mortara pour cette histoire d'enfants juifs convertis de force en secret. Etc. Donc, le reste de sa vie va se passer comme ça, à chercher comment aider ses frères juifs. Et par exemple, bon, une de ses phrases fétiches, c'est « Kol Israël arevim zelazé ». Chaque juif est comptable de son frère juif. C'est-à-dire que chaque juif doit se sentir responsable de ce qui arrive à son frère juif, de s'il est en difficulté, donc il doit être là pour l'aider. Et dans la mesure où Moshe Montefiori a les moyens d'aider, alors c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, par exemple, se rendre en Eretz Israël. Alors, en Eretz Israël, il va s'y rendre pas moins de 7 fois. Quand on sait qu'à l'époque, au 19e siècle, les voyages ne sont pas aussi simples aujourd'hui, il a pris l'avion. Alors, ça se passe par bateau, ça prend des mois, ça prend des semaines, des mois. Enfin bref, la situation en Eretz Israël est très difficile, la peste sévit.
Robert, à cette période-là ?
Alors, on est en 1827, donc vraiment au début du 19e siècle. C'est en 1827 qu'il arrive pour la première fois à Jaffa. Et il va débarquer, il va se déplacer de Jaffa à Jérusalem, enfin, il va parcourir un peu le pays.
Quelles ont été ses actions en Israël ?
Ce qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, c'est distribuer de l'argent aux familles, aux communautés nécessiteuses. D'accord ? Les familles, les juifs qu'il rencontre dans la vieille ville de Jérusalem et qui vivent à l'époque de ce qu'on a appelé la Chalouka. La Chalouka, c'est quoi ? C'est une espèce d'aumônes que recevaient les juifs encore à l'époque en Eretz Israël concentrés dans quatre villes, les quatre villes saintes que sont Jérusalem, Tibériade, Tzfat, Fès et Hébron. Donc il va distribuer de l'argent essentiellement. Mais ce premier voyage va le marquer énormément.
Qu'est-ce qu'il faisait comme métier alors ?
Ah ben, il a fait fortune en fait dans le commerce et dans la banque.
D'accord.
Est-ce qu'il ne gâte rien ? Il a épousé une fille Rothschild, la fille d'un certain Bernd Cohen, qui était à l'époque le juif le plus riche d'Angleterre.
D'accord.
Apparenté à la famille Rothschild, à la branche anglaise de la famille Rothschild. Voilà, mais. Sa fortune, il la doit essentiellement à son talent de courtier, à son talent d'homme d'affaires. Donc, il arrive en Israël et il voit la situation telle que je vous l'ai décrite. Maintenant, il va revenir 7 fois. À chaque fois, pour amener quelque chose de plus. Je vous donne un exemple. En 1839, il va acheter des terres. Pour qui ? Pour la communauté juive de Safed, de Tzfat, dans le nord d'Israël. Il leur achète des terres pour pouvoir avoir un revenu, pour pouvoir travailler la terre et avoir un revenu. Chose qu'ils n'avaient pas jusque-là, dans la mesure où ils vivaient de petit artisanat. Les Juifs étaient interdits de travailler la terre par les autorités ottomanes. Ils ne devaient se concentrer que dans le commerce quoi, ou l'artisanat. Donc ils n'avaient pas vraiment de source de revenus. Alors, il va mettre l'accent sur l'agriculture. Il a acheté des terres pour eux. Il va installer des services médicaux. Voilà, il va même faire venir son médecin d'Allemagne, un certain Frankel, pour soigner ces pauvres juifs. Donc, il va, à chacun de ses voyages, il va amener quelque chose.
Robert Montefiori, on connaît surtout de lui le fameux moulin qui est situé à Jérusalem.
Oui, en effet. Alors, le fameux moulin de Montefiori, il fait face aux murailles de la vieille ville, face à Har Tzion, le Mont Sion, et célèbre à Jérusalem. Mais pas seulement. Nous avons le moulin et le quartier qui va avec. Nous avons Mishkanot Sha'ananim, dont je vous parlerai tout de suite après, et le quartier de Yemin Moshe. Mais revenons au moulin. Alors, le moulin en lui-même, en fait, pourquoi un moulin ? C'est que Montefiori, quand il arrive à Jérusalem et qu'il voit de ses propres yeux la misère dans laquelle vivent les Juifs dans leur quartier, derrière les murailles de Jérusalem, est effrayé, effaré. Et il se dit qu'il faut donner à ces Juifs, premièrement, un moyen de subsistance. À l'époque, les Juifs ne vivent que derrière les murailles. Ils n'osent pas sortir. Je vous rappelle que tout ce qu'on appelle aujourd'hui la ville nouvelle de Jérusalem et qui est autour de la vieille ville, des murailles, n'existe pas à l'époque. Il n'y a rien. Ce sont les collines de Judée, le désert de Judée. Donc les Juifs vivent auprès des lieux saints. Ils vivent auprès du Harabait, du Mont du Temple et du Kotel. Et ils ne quittent pas leur quartier. Même s'ils sont en butte aux vexations des populations musulmanes ou chrétiennes qui vivent également avec eux dans Jérusalem. Mais ils n'osent pas sortir parce que, premièrement, la région n'est pas sûre à l'extérieur. Des brigands abondent à l'époque et en même temps que des bêtes sauvages qui infestent la région. Donc, ils ne veulent pas sortir de derrière les murailles. Ils ont peur. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que ils ne veulent pas s'éloigner des lieux saints. Comme je vous l'ai dit, ils sont près d'Arabaï, près du Kotel. Ils ne veulent pas s'éloigner des lieux saints. Ils ne veulent, voilà. Bon, ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison, c'est que les chefs de ces communautés juives, que ce soit la communauté ashkénaze ou la communauté séfarade de la vieille ville de Jérusalem, ne sont pas très enclins à voir leurs ouailles quitter le giron de la vieille ville. Pourquoi ? C'est qu'en fait, à l'époque, les Juifs ne vivent quasiment, mis à part un peu d'artisanat, ne vivent quasiment que de ce qu'on appelle la chaloukha, qui est...
C'est quoi la chaloukha ?
En fait. Alors la chaloukha, voilà, c'est définir ça, comme une aumône que les Juifs reçoivent de l'étranger pour leur permettre de survivre là où ils sont, dans les quatre villes saintes dont on a déjà parlé, que sont Safed, Jérusalem, Tibériade ou Hébron. Voilà. Donc ils reçoivent de l'argent pour qu'ils restent là et qu'ils survivent comme ils peuvent là-bas. Et donc, si cette source trouve les moyens de subvenir à leurs besoins, eh bien le risque est que la générosité des donateurs de l'étranger se tarisse. Et que donc, l'argent n'arrive plus. Alors voilà, donc c'est les trois raisons principales qui font que les Juifs ne veulent pas sortir des murailles. Alors Montefiore a cette idée de construire ce moulin qui pourra leur donner des moyens de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Et il propose également de construire un quartier où les Juifs pourront vivre près du moulin sans avoir à rentrer le soir derrière les murailles. et c'est le quartier qui va s'appeler Mishkenot She'ananim.
D'où vient ce nom?
Alors, Mishkenot She'ananim, d'abord, il est tiré, en fait, d'un chapitre du Sefer Yishayahu. C'est le chapitre Lamed Bet, le verset Yutret, et qui dit « Vayeshev Ami Beneve Shalom de Mishkenot Miftachim Ubem Nuchat She'ananut » qui veut dire « Et mon peuple s'installera dans un havre de paix, dans des demeures sûres, dans la tranquillité et la plénitude. » Alors, c'est ainsi que va s'appeler ce premier quartier juif en dehors des murailles de la ville juive de Jérusalem. Alors, en quoi consiste-t-il? Il s'agit, plutôt qu'un quartier, il s'agit d'un bâtiment long, d'à peu près une centaine de mètres, qui va comporter 16 appartements. 16 appartements, de petits appartements, avec un jardinet attenant, et qui va permettre à 16 familles de sortir de la vieille ville de Jérusalem dans les conditions notamment de vie qui sont les leurs, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue sanitaire, parce qu'en fait, ils vivent dans des conditions, ils n'ont pas d'eau courante, bien entendu, derrière les murailles de la ville. Enfin, les conditions sanitaires sont catastrophiques de la même manière.
Donc, on est en train de parler du moulin de Montefiori et donc du premier quartier hors des murs. C'était dans les années 1800. On est dans les années 2000, plutôt en 2024. Et moi qui ai voyagé en Israël, eh bien, j'ai pu m'apercevoir qu'en visitant le moulin de Montefiori, c'est devenu un quartier assez pittoresque.
Alors, absolument. Alors, donc, nous avons le moulin de Montefiori, nous avons Mishkenot She'ananim, donc qui est cette espèce d'immeuble comme ça en longueur avec les appartements, 16 petits appartements, et nous avons Yemin Moshe qui est attenant, et donc c'est celui-là dont tu parles, j'imagine, donc il y a un côté un peu provençal comme ça en effet, ouais. Avec des bougainvilliers qui coulent le long des murs, voilà. Alors, qui est aujourd'hui un quartier résidentiel où de nombreux artistes vivent et c'est un des quartiers qui est le plus disons le plus préservé de Jérusalem.
D'accord.
Si on peut dire.
Un endroit à visiter. Est-ce qu'il y a par rapport à Montefiori, est-ce qu'il y a des rues qui portent son nom? Alors bien sûr, je pense à Jérusalem, mais est-ce qu'il y a dans d'autres villes d'autres rues qui portent son nom?
Absolument, absolument. Alors, ne serait-ce qu'à Jérusalem, il n'y a pas moins de 5 quartiers qui rappellent Moshe Montefiori. Nous avons parlé de Yemin Moshe, donc qui signifie à l'honneur de Moshe, Moshe Montefiori, bien entendu, 1891. Nous avons Kiryat Moshe, le quartier de Moshe, qui est un quartier qui se situe à l'entrée de la ville de Jérusalem. De la ville moderne, hein, de l'entrée de Jérusalem à l'arrivée d'autoroute. Nous avons Maskeret Moshe, le souvenir de Moshe, à Jérusalem même. Nous avons Zichron Moshe, également le souvenir de Moshe. Nous avons Oel Moshe, la tente de Moshe. Mm-hmm. Oui, la tente, hein, pas la tata. donc, pas moins de 5 quartiers rendant honneur à Moshe Montefiori. Maintenant, nous avons aussi Tel Aviv, où se trouve le quartier Montefiori, avec l'avenue Yehudit Montefiori, du nom de sa femme, Yehudit. Nous avons même un pont tubulaire qui enjambe Ayalon, l'autoroute, le périphérique de Tel Aviv, qui s'appelle Gesher Yehudit, le pont de Judith, du nom de Yehudit Montefiori. Maintenant, nous avons également un certain nombre d'avenues, de rues à travers tout le pays. À Yafo, à Haïfa, à Beersheba, à Netanya, à Holon, etc., etc., etc. Il y a autant d'avenues Montefiori qu'il peut y avoir en France, d'avenues du Général de Gaulle ou d'avenues de la République. C'est pour vous dire l'importance du personnage.
Alors en fait, Sœur Montefiori, on le connaît grâce à un monument, mais en fait, ce que l'on ne connaît pas de lui, grâce à toi, on vient de l'apprendre. C'était un homme généreux qui a soutenu et aidé son peuple tout en humilité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion sur Sœur Montefiori ?
Ce qu'on pourrait dire de lui, c'est que, c'est ce que moi j'aimerais dire de lui, c'est qu'en fait, c'est un des premiers véritables sionistes. C'est-à-dire qu'il précède Herzl, il précède d'autres penseurs sionistes, parce que c'est lui qui va, si tu veux, imaginer Eretz Israël à nouveau refleurir. Il va imaginer les Juifs reprendre leur destin en main dans leur pays, Eretz Israël.
C'était un précurseur ?
C'était un véritable précurseur. Et il ne demandera quasiment rien à personne. Bien entendu, il sera aidé, il utilisera un héritage d'un autre philanthrope juif américain, Yehoshua Toro, par exemple. La majorité de sa fortune va être utilisée pour le bien-être de ses contemporains juifs. Et voilà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est... c'est une personnalité. D'abord, c'était un personnage en soi haut en couleur, d'1m90, dont on dit qu'il buvait un litre de vin par jour parce qu'il était, c'était un fan de vigne. Enfin, c'est un personnage véritablement qui a marqué son temps vis-à-vis de ses contemporains juifs et qu'on a peut-être un peu oublié.
Bien, tu étais là pour nous en parler de Sœur Montefiori. Alors, Robert, il y a un chanteur qui l'a mis également à l'honneur. Il s'appelle Yoram Gaon et je te laisse présenter cette chanson, si tu le veux bien.
Voilà, alors cette chanson va être un hit dans les années 60 en Israël. En fait, elle décrit l'action de Moshe Montefiori à partir de 81 ans, quand il a 80 ans. Parce que il faut savoir qu'il viendra son dernier voyage, il aura 91 ans. Hein. Il finira sa vie à 101 ans. Donc il a 91 ans quand il fait son septième voyage. Et cette chanson de Yoram Gaon raconte son histoire. Et si vous écoutez les paroles, vous entendrez toutes les bonnes actions qu'il va entreprendre pour aider ses frères juifs. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire.
La chanson s'appelle
Sœur Moshe Montefiori. En hébreu, il va dire, petit jeu de mots, Sœur Moshe Montefiori. Sœur, en hébreu, veut dire ministre. Hein? Mais c'est un petit jeu de mots avec le Sœur Moshe Montefiori. Il lui donne un titre supplémentaire dans la chanson, le considère comme un ministre, parce qu'il avait cette importance également.
Je vous invite à écouter Yoram Gaon. La la la.
כשהיה השר מונטיפיורי בן 80 אז באו לביתו המלאכים הלבנים עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק סלחו לי רבותיי, אך באמת אני עסוק כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופומתן בסתר ושב הנדבה פוצביתה בלחי על ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר
וכל הכבוד לשר
וכשהיה השר מונטיפיורי בן 90 עברו לו תעלה ושם למעלה מבקשים שאל אותם השר תגידו איך אוכל איך עלילת הדם בדמשק מבוטל הלא צריך ללכת לפחה הנפזה להגיד לו תתבייש איך מרשים דבר כזה ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש מן המתן הגדולה אך שאיש בה לא ירגיש אז מי אם לא אני לטורקי את זה יגיש והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר שם הנדבה וצביתה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר וכשהיה השר מונטיפיורי בן מאה אמר מספיק לידי הנשמה שלי שבעה הלכו מיליונים לירות פרנקים ובשליק אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל להגביע את הכותל המערבי לנבש העננים יהודים יש להביא ומי אם לא אתה יא מורי יא לבבי והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר שם הנדבה או צביתה בלחי, או ליטוף של אהבה וכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד אל השר וכל הכבוד אל השר וכשהיה השר בן מאה ועוד שנה נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה וכך את העיניים עצמו בבוקשו רק אבן ירושלמית מתחת לראשו עטוף תלית של משי ונח בתוך ארון גמר השר משה את מסעו האחרון אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה סוסים אמר ופה מתן בסתר ושם הנדבה ופה צביתה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה כל הכבוד אל השר וכל הכבוד אל השר ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד אל השר וכל הכבוד לשר
Voilà, c'était Israël, un lieu, une histoire, présenté par Robert Guy Hakoun. Je rappelle, Robert, que tu es journaliste franco-israélien, par ailleurs également écrivain biographe. Tu es également guide touristique tant en Israël qu'à travers le monde juif, que ce soit en Espagne, au Portugal, en passant par la Pologne, le sud de la France ou encore l'Afrique du Nord. Et en tant que guide touristique, vous pouvez retrouver Robert Guy Hakoun sur le site hakounamatata.com, hakounamatata.com, hakounamatata.com. Merci infiniment Robert pour cette émission et on se retrouve très prochainement pour Israël, un nouveau lieu et une nouvelle histoire.
Merci Serge et à bientôt.
Au revoir Robert.
Au revoir.
Aura Vive, retrouvez-nous 24h sur 24, 7 jours sur 7.